Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot. Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ça
semble bien. Ouais, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
C'est IBL. 101.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 24 avril et ici Charline Caro, votre animatrice en cette journée pluvieuse. Et aujourd'hui, on reçoit les ateliers Speech pour parler de leur nouvelle OP, suivie de nos chroniqueuses avec Elisa Fernandez pour les grandes femmes de Montréal et Flavie Boudreau pour les enjeux d'adolescence. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la mairesse Valérie Plante déplore l'expression « bonjour, hi » trop utilisée selon elle dans les commerces montréalais. Le message que je veux passer, dit-elle, c'est que dire bonjour est un avantage, un plus. Cette réaction survient après la publication d'un rapport de l'Office québécois de la langue française qui révèle que la proportion des commerces qui accueillent leurs clients en français uniquement est passée de 80% à 70% en 10 ans. Et ensuite, la SAQ va grandement réduire son offre de spiritueux québécois en raison d'une offre saturée. Aujourd'hui, plus de 600 sortes différentes sont présentes sur les tablettes de la Société d'alcool de l'État qui veut en supprimer environ 200. La raison de cette suroffre, c'est l'éclosion des micro-distilleries au Québec depuis 5 ans et un engouement qui a diminué. On continue sur CIBL pour parler du nouvel EP des ateliers Speech. Les ateliers Speech, c'est un organisme qui promeut la création musicale auprès des jeunes et dans quelques jours sort un EP écrit et interprété par les artistes qu'ils ont formés. J'ai donc en ma compagnie Émilie Morneau, directrice des programmes chez Speech, ainsi que l'artiste Beijing qui a participé à l'EP. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Charline.
Comment vous vous sentez en cette période de lancement ?
Bien.
Ouais.
Ouais, et j'ai hâte d'entendre le reste de l'album parce que même moi aussi
ce sera une surprise pour moi là. Donc j'ai hâte, j'espère que vous allez avoir hâte aussi de l'écouter.
Bien sûr, un peu de stress.
Ben on a de la broue dans le toupette parce qu'on prépare le hit parade le 18 mai, on prépare la sortie du EP4, entre autres choses, ainsi que toutes les activités quotidiennes à l'organisme.
Mm-hmm. Ouais. Alors on va revenir sur cette EP bien évidemment, qui s'appelle d'ailleurs Speech volume 4 tout simplement. Mm-hmm. Émilie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la mission des ateliers Speech?
La mission des ateliers Speech, c'est de rendre la musique comme un prétexte pour participer au développement de compétences et d'attitudes qui concourent au mieux-être, au bien-être, mm-hmm. au développement positif, à la réussite éducative des jeunes ados de 13 à 17 ans.
C'est un beau projet.
C'est un très beau projet qui fonctionne, je dirais.
Et quels sont les profils des jeunes que vous accompagnez?
Les jeunes sont variés. Ce sont des jeunes qui vivent des situations d'inadaptation scolaire et ou psychosociale. Donc, ce peut être des jeunes qui vivent ponctuellement des problématiques de santé mentale ou des jeunes qui vivent des problématiques d'apprentissage grave, par exemple. On travaille vraiment avec des jeunes qui prennent part à des classes de langage, des classes d'accueil, des classes préparatoires au travail. Vraiment des jeunes qui fréquentent aussi des écoles dont l'indice de défavorisation est d'au moins 7 sur 10. Mm-hmm. Donc, des populations plus vulnérables que la moyenne.
Très bien. Donc, votre mission, c'est d'aider les jeunes en situation d'inadaptation sociale, notamment, ou scolaire.
Oui.
Et le moyen d'action que vous avez choisi, c'est la musique.
Absolument.
Pourquoi la musique? Quel impact a-t-elle?
Parce que la musique a... la démarche créative qui entoure la musique permet vraiment de dissocier les matières traditionnelles des classes qui ne vont pas nécessairement répondre à tous les jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont pouvoir s'épanouir dans les matières traditionnelles scolaires. Donc, c'est vraiment un moyen de développer tout plein de trucs qui permettent aux jeunes d'explorer leur identité, d'explorer leurs idées, de s'autodéterminer aussi, de croire en leurs idées, de croire en leur personne, d'explorer qui ils sont, d'apprendre la socialisation, de tisser des liens vraiment importants avec une personne adulte. Parce que pour plusieurs jeunes, la confiance envers une personne d'autorité, parfois, c'est difficile. Mm-hmm. Donc, ça, c'est précieux, ce lien-là. Créer des liens créatifs, mais aussi des liens d'amitié avec leur père. Donc, c'est un autre moyen de participer et de favoriser la réussite éducative. On ne parle pas de réussite scolaire, mais réussite éducative, là, qui est vraiment globale du jeune.
Très bien. Et concrètement, quelles activités vous offrez à ces jeunes-là?
Concrètement, Speech, c'est deux grands programmes dans toutes les écoles avec lesquelles on travaille, dans Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal-Nord, à Trois-Rivières et à Shawinigan. Le premier programme, qui est le programme phare, c'est le programme Speech en résidence. C'est un programme de 30 semaines où chaque personne intervenante dans chaque école accompagne de 20 à 25 jeunes qui sont à la fois exemptés d'une classe par semaine, où ils sont amenés en petits groupes de 2 à 3 jeunes à explorer la créativité musicale en apprenant à écrire et à composer de la musique. Donc, ils apprennent vraiment à faire des chansons. Mm-hmm. Et ça, c'est en petits groupes. Puis ça, c'est la première approche. Puis la deuxième approche, tous ces micro-groupes-là, qui sont en 2 à 3 jeunes par intervenant, se rassemblent à chaque semaine en parascolaire pour faire une espèce de communauté de pratique. Donc, ils vont encore une fois, mais en grand groupe et d'une autre façon, apprendre à composer de la musique, à écrire des paroles pour construire des chansons. Donc, ils ont deux modes différents, deux approches qui permettent à chaque jeune aussi de se retrouver. Il y en a qui sont plus à l'aise en petit groupe, il y en a qui sont plus à l'aise en grand groupe. Et tout ce beau monde-là, dans ce programme-là de Speech en résidence, à la fin de l'année, va voir ses chansons enregistrées professionnellement. Peaufiner professionnellement également. Et tout ça est sous-tendu par de la médiation culturelle. Donc, à chaque année, les jeunes reçoivent des artistes professionnels en classe qui vont les amener à co-créer. En fait, il va toujours y avoir une touche d'un artiste professionnel dans leur chanson, que ce soit une artiste chanteuse, par exemple comme Sarah May ou Dominique Fils-Aimé qu'on va retrouver sur le EP. C'est des artistes qui sont venus donner des ateliers en classe. Donc, ils ont participé à la co-création des chansons, mais on retrouve aussi un peu le son des ingénieurs de son, des arrangeurs, des producteurs, des réalisateurs, des gens de l'industrie qui viennent vraiment soutenir puis professionnaliser le travail des jeunes. Puis notre autre programme, c'est Speech Ensemble. C'est un programme court qui s'effectue 5 fois par année. C'est des jeunes qui vivent ponctuellement des problématiques de santé mentale. Donc, en collaboration avec les équipes écoles, à la fois avec les directions, les enseignants et aussi les TES, les TS, les psycho-aides, on va se rassembler puis on va déterminer quels jeunes bénéficieraient de notre programme durant 6 semaines, que ça leur ferait du bien pour de vrai, puis vraiment qui se ressentiraient un peu plus grandis, un peu mieux. Ça peut être des jeunes qui vivent un deuil, par exemple, tout simplement. Puis ça, ce programme-là, donc, dure aussi 30 semaines, mais à raison de 5 fois par année. Donc, il y a 5 cohortes différentes par école que l'intervenant jeunesse musicale va accompagner.
Très bien. Ouais. Ça a l'air d'être un cadre très professionnel, absolument. Tu le disais, avec des résidences de 30 semaines, un encadrement par des artistes aguerris.
Ouais.
C'est vraiment un luxe quand on pense que l'industrie musicale est parfois pas très évidente à intégrer.
C'est vrai, mais le but final, c'est pas nécessairement d'en faire des artistes. Bien sûr, il y a des jeunes comme Bijin ici qui ont un talent extraordinaire, qui ont une fibre, une envie peut-être de professionnaliser leur talent de chanteur, de chanteuse, de producteur. Mais surtout, le but, c'est participer au développement global positif du jeune. C'est vraiment, après ça, de transférer les apprentissages de la musique à la vie de tous les jours, qui parfois sont des apprentissages de mieux-être, de savoir-être, qui, après ça, dans la vie professionnelle ou personnelle, a des effets positifs. Donc, il ne faut pas penser qu'on est là en train de créer des futurs artistes. Oui. Ça devient vraiment des outils pour eux, pour la vie, et qu'ils vont appliquer comme bon leur semble. Ils vont se sentir mieux, donc nécessairement, ce qu'ils vont faire dans la vie, là, ben, ça va aller mieux parce que ça va être des jeunes un peu plus posés, réfléchis. Oui, tout à fait. Plus de confiance en eux. Donc, ça fait une différence.
Mm-hmm. Est-ce que vous rencontrez du succès auprès des jeunes?
Est-ce qu'on rencontre du succès? On a des cibles. On se met des cibles à chaque année. On se dit, on veut tant de jeunes dans telle école, tant de jeunes dans tel programme. Et on se rend compte qu'à chaque année, on dépasse largement les cibles et que les jeunes sont intéressés. Parce qu'il faut dire, nous, là, comment qu'on fait pour aller chercher nos jeunes? Est-ce qu'on fait des tournées de classe au début de l'année? On leur parle du projet. On travaille avec les profs.
Oui, je m'en souviens. Ouais.
Après ça, on rencontre les jeunes qui sont intéressés. On leur fait faire des petits tests pour savoir au moins s'ils ont du beat, s'ils sont capables de tenir une mesure, s'ils sont capables de reconnaître une voix haute, une voix basse. Des petits trucs de base. Puis après ça, on les invite à participer s'ils le souhaitent et si les parents le souhaitent. Puis c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, on tord le bras à personne. Beaucoup veulent. On ne peut pas choisir tout le monde, malheureusement, bien qu'on aimerait ça.
Et ça tombe bien, parce qu'on est aussi avec Bijin, une jeune de 18 ans, artiste également, qui est présente sur cette EP. Est-ce que tu avais déjà un parcours musical avant d'intégrer les ateliers Speech, ou ça a été une découverte?
Non, j'avais déjà mon parcours musical était bien avant Speech. En fait, j'ai grandi à l'église, ok? Je suis chrétienne et donc le gospel. Et dès que t'es petit, on te rentre dans un groupe, puis tu chantes. Donc ça, c'était moi, puis il y a ma mère qui chante, il y a mon père qui chante. Donc j'étais vraiment déjà dans ce cadre musical. Donc j'ai grandi dedans. Ensuite, j'ai rencontré Speech en classe, puis il parlait de musique. Et en plus, skipper une classe. Donc j'étais comme, let's c'est go! C'est parfait! Donc, j'ai signé là, vite fait, je suis comme... On y va. Et puis, depuis, j'ai jamais lâché Speech. Mm-hmm. Et même si j'ai laissé l'école, j'ai terminé mes études secondaires. Et maintenant, je suis au cégep. Je continue toujours à travailler avec Speech parce que je vois les bénéfices que ça rapporte aux jeunes. Comment, quand ils écrivent, ils parlent de leurs sentiments et comment leur estime de soi s'élève. Et ils ont plus confiance en eux. En gros, je vois que c'est vraiment bénéfique pour les jeunes. Donc, moi, j'ai décidé de rester avec Speech et de créer des chansons pour Speech parce que c'est amazing.
Justement, tu parles des impacts que ça a eu au niveau de ta vie. On en parlait tout à l'heure sur le scolaire, sur le quotidien. Toi, tu as vraiment vu des bienfaits de la musique sur tous les aspects de ta vie?
Niveau scolaire, des notes à l'école, j'étais toujours une bonne élève. OK? Genre, j'étais toujours une bonne élève. Je passais déjà mes cours avec de belles notes. Thanks to the Lord. Mais avec Speech, je voulais plus aller à l'école parce que, comme lundi, t'as pas trop envie. Ouais. Mais c'est que tu vas avoir Speech, puis tu vas avoir un cours que tu vas skipper. Mm-hmm. Et la musique qui est fondamentale dans ma vie parce que it means a lot. Donc, à chaque lundi, je suis comme, OK. C'est lundi, mais je vais faire de la musique. Mm-hmm. Je vais voir Speech, je vais créer de la musique. Puis en dehors de l'école aussi, en dehors de Speech, j'écrivais de la musique et je donnais à Speech. Et comme ça, on est allé dans les studios et puis j'ai rencontré des artistes professionnels, ce qui m'a vraiment aidée dans mon parcours artistique. Et c'est comme ça que Speech a impacté ma vie.
Alors, tu disais que tu étais déjà un peu dans le milieu de la musique, du gospel notamment. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a appris, ces ateliers-là? Qu'est-ce que tu as appris à faire que tu ne savais pas encore faire?
Bon, au début, on a essayé de faire du beatmaking avec moi. Ça n'a pas ça trop n'a pas marché.
Chacun son truc.
Chacun son truc. Donne-moi un papier, un crayon, puis l'inspiration va venir. Je vais t'écrire une belle chanson et avec des paroles... À propos du sujet que tu veux, là, je vais le faire. Je vais le chanter pour toi. Faire du beatmaking, c'est pas moi. Je peux faire un petit truc avec mes mains, là, maintenant, mais comme, c'est pas moi. Je vais chanter pour toi, je vais écrire pour toi, mais...
Bah, écrire, c'est très bien. Et justement, t'as appris à écrire avec les ateliers Speech. On t'a donné des techniques, on t'a appris un peu cet exercice.
Avec ateliers Speech, non, pas vraiment. J'ai déjà...
Émilie est choquée.
Désolée, Speech, mais j'écrivais déjà avant de rencontrer Speech. D'ailleurs, Speech volume 3, la chanson que j'ai interprétée pour Speech volume 3, je l'avais déjà écrite en dehors de Speech et je l'ai donnée à Speech. Mais en même temps, Speech m'a aidée à mieux écrire, genre à faire en sorte que mes écrits soient dans un autre niveau, que ça soit plus professionnel, que ça soit plus structuré, et que les paroles que j'écrive fassent en sorte que l'émotion que je veux qu'il se passe que les gens ressentent, Speech m'a aidé à mieux concrétiser cette partie-là dans mon écriture. Donc, je peux dire que Speech m'a vraiment aidé à professionnaliser mon écriture. D'accord. Mais j'écrivais avant.
Ouais. Très bien, on retient. Mais tu t'es perfectionnée, si ça peut rassurer Émilie.
Ouais. J'accepte ce qu'elle dit.
Alors, cette EP, le quatrième que vous réalisez à Speech, présente les titres de 5 anciens participants aux ateliers. Ouais. Pourquoi finaliser cette formation par un EP?
Ben, en fait, ce sont pas, ça finalise pas la formation des jeunes dans les écoles l'EP. L'EP vient démontrer ce que Speech a fait apprendre à nos jeunes auparavant. Donc, c'est des anciens participants. C'est vraiment le message qu'on envoie à l'extérieur de Speech. Mm-hmm. Ce qu'on fait à l'intérieur de Speech, au cours de l'année, il n'y a pas de diffusion de leurs chansons. Mais le EP et le spectacle Hit Parade du 18 mai, c'est vraiment des produits pour le grand public. Ça nous permet de démontrer qu'est-ce qu'on fait professionnellement, jusqu'où on peut aller avec les bases de Speech qu'on a poussées un peu plus loin, avec les jeunes qu'on a choisis, qui ont participé auparavant aux ateliers Speech.
Oui, très bien. Et pour toi, Béjine, qu'est-ce que ça représente de participer à un EP?
OK, participer à un EP. En vrai, avant Speech, j'ai jamais, comme j'étais plus focus sur l'école, j'avais jamais vraiment fait une chanson professionnellement, ben, aller au studio et faire et mettre sur un album. Donc ça, c'est une première avec Speech. Émilie, tu veux sourire? Donc ça, c'est vraiment une première avec Speech. Puis j'ai pu apprendre beaucoup de choses professionnellement qu'on fait au studio. Par exemple, quand on chante live sur une scène, par exemple, et dans un studio, c'est pas vraiment la même chose. Puis il faut prendre des takes et takes encore et takes jusqu'à ce que ça soit parfait. Et comme moi, je suis quelqu'un qui est comme vraiment, je suis une perfectionniste, je veux que ça soit bien, et donc il faut prendre des takes et des takes. Et il y a les techniques aussi, il y a les réchauffements avant d'enregistrer. C'est vraiment beaucoup de trucs. On dirait qu'ils sont basiques, mais qu'ils sont vraiment importants à la réalisation d'un EP que les gens peuvent penser qu'on doit mettre à côté, mais qui sont vraiment importants, que j'ai pu apprendre avec Speech. Donc, j'ai vraiment appris cette partie professionnelle avec Speech. Yeah.
Et puis, les cinq jeunes artistes sont également accompagnés. Ils collaborent avec des artistes établis. Mm-hmm. Comment vous les avez convaincus de donner leur temps pour participer à cette EP de jeunes artistes?
Comme je disais un peu plus tôt, Sarah May et Dominique Fils-Aimé ont été des mentors, des marraines au courant de l'année pour les jeunes en parascolaire à l'école Saint-Luc, pour l'annexe Saint-Luc et le Grand Saint-Luc. Donc, elles étaient déjà dans la loupe, comme on dit, et on leur a demandé, est-ce que vous aimeriez participer au EP? Parce qu'on n'a jamais fait ça auparavant. C'était que les jeunes qui faisaient des duos, des featuring et tout ça. Et là, on s'est dit, ça serait cool d'avoir des featuring d'artistes établis. Mm-hmm. On est allé chercher Naomi vraiment sur le fly, comme on dit, pour accompagner Béjine. Il fallait trouver quelqu'un aussi qui allait pouvoir porter sa chanson, sa voix, son talent. Mais ça n'a pas été dur de les convaincre parce qu'ils ont cru dès le départ à notre mission. Puis ils ont même souhaité revenir plus souvent parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas suffisant comme accompagnement. Ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Et quel a été leur rôle? Est-ce qu'ils ont coécrit les titres ou ils ont simplement collaboré en chantant sur les titres?
Ça dépend de laquelle personne. Par exemple, Sarah May est venue vraiment en studio. Elle a entendu la chanson en studio de Juan Chaidemi, un jeune qui a participé auparavant. Puis sur le fly, justement, elle a écrit un couplet, tout simplement inspiré par qu'est-ce qu'elle a entendu. On l'a enregistré, c'était super bon. Donc, il y a diverses manières de participer. Dominique Fils-Aimé était déjà en contact avec la jeune Heavenly. Ils ont déjà réfléchi d'avance un peu vers où ils voulaient s'en aller. La chanson était déjà écrite. Cependant, elle est venue ajouter des voix, des loops de voix sur la chanson. Elle est venue vraiment ajouter sa couleur. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses, comme Béjine l'a dit, il y a beaucoup de choses qui se décident en studio. Parfois, on s'en va vraiment dans un sens où on ne devait pas s'en aller. Mm-hmm. Ce qui est vraiment la magie de la création puis de la co-création, justement.
Ouais. Ouais. Toi, ça t'a apporté quoi de collaborer donc, avec cette artiste, Naomi?
En studio, si Naomi écoute ça, elle est vraiment nice en tant que personne. Puis avec son parcours musical qu'elle a eu, son professionnalisme, elle m'a donné des conseils pendant que j'étais en train d'enregistrer ma chanson, parce qu'elle était là aussi, on était en train d'enregistrer ensemble. Et elle m'a vraiment donné des conseils musicaux, genre des trucs vocaux, quoi. Puis elle m'a donné un glimpse, une petite fenêtre là qu'elle a ouvert. Et elle a pu me donner un peu d'elle-même en enregistrant cette chanson avec moi. Et ses conseils, je les gardais à vie parce que c'était de bons conseils.
Et justement, cette chanson, elle s'appelle Pas à pas, que tu as réalisée avec cette autrice, compositrice et interprète Ken Naomi. Que raconte ce titre?
Ok, ce titre, Pas à pas, je traversais une période assez difficile au début de l'année parce que quelqu'un que j'étais proche avec est mort, quoi. Et donc c'était pas facile pour moi parce qu'on était on était vraiment proches. Et les jours étaient... Déjà, c'était l'hiver, là. C'était déjà noir dehors. C'était encore plus noir, là. Genre, comme... Je voyais vraiment pas la lumière. Genre, en fait, quand je dis la lumière du jour, c'est métaphorique parce que... Voilà, quoi. Mais à un moment donné, j'ai décidé, comme... Je peux pas rester dans le noir, dans ce tunnel-là, et de juste m'asseoir dans le noir et de rien faire. Du coup, j'ai dit, comme... Ben, jour après jour, pas à pas, ce sera pas facile. Des jours, je vais penser que je vais bien, et puis le lendemain, c'est catastrophique. Mais je vais continuer à avancer, et donc c'est vraiment de ça que la chanson parle, de même si je suis une femme, même si t'es un homme, même si t'es un enfant, un adulte, tu peux te retrouver dans ces paroles-là, parce qu'on traverse tous des moments difficiles dans la vie. Et malgré ce qui se passe, tu dois toujours continuer à avancer parce que tu ne peux pas rester là où tu es.
Très bien. Eh ben, ça donne envie de l'écouter, ce titre, et ça tombe bien parce que tu nous proposes de l'interpréter en live. Je te laisse donc prendre place et puis on écoute Pas à pas de Belgine en collaboration avec Naomi.
Maintenant je suis debout, ce ne fut pas toujours le cas. Sans mentir, j'ai pris des cours, même quand j'étais au plus bas. Quand l'anxiété veut m'effacer, moi j'arrive à prier. Malgré les pleurs, les craintes, aujourd'hui j'en ressors avec cœur. Peu importe les angoisses, je me tiendrai avec grâce. Je pars quand t'aimes mes pas, je regarderai pas d'un pas que le ciel conge vers de là. Ah, ah, ah. Je sens le vent qui tourne pour me sortir de la boucle et trouver ma voix sur de là. Ah, ah, ah. Je n'aurais pas pu croire en moi si je n'avais pas la foi que je toucherais les étoiles. Le travail commence déjà là. Si longtemps j'ai pensé que je méritais mon malheur, mais souris mon ami, crois-moi, on fait tous des erreurs. Peu importe les angoisses, je me tiendrai avec grâce. Je pars quand t'aimes pas, je regarderai pas d'un pas que le ciel grange vers de là. Ah, ah, ah. Je sens le vent qui tourne pour me sortir de la boucle et trouver ma voix sur de là. Ah, ah, ah. Je veux pas qu'on t'aime pas, je regarderai pas d'en bas que le ciel plonge vers de là. Ah, ah, ah. Je sens le vent qui tourne pour me sortir de la boucle et trouver ma voix sur de là. Ah, ah, ah. Pas à pas, un jour à la fois. Pas à pas, pas à pas, un jour à la fois. Pas à pas. Pas à pas, un jour à la fois. Pas à pas, je suis presque là. Je pars quand t'aimes pas, je regarderai pas d'un pas que le ciel conge vers de là. Ah, ah, ah. je sens le vent qui tourne pour me sortir de la boucle et trouver ma voix, je suis au-delà. Ah, ah, ah.
Merci beaucoup, Beijing, pour ce moment suspendu dans le temps. C'est Pas à Pas, donc, de Beijing, toi-même, en collaboration avec Naomi, qu'on entend également dans l'enregistrement. Merci beaucoup à
Merci.
Toutes les deux d'être venues nous parler de ce projet. L'EP s'appelle Speech Volume 4 et sera disponible le 10 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup et puis bonne continuation à toutes les
Merci.
Deux.
Merci, Charline.
On continue sur CIBL avec la chronique des grandes femmes de Montréal.
Je t'imagine, dans mon esprit du air, il y a de la magie dans l'air. Je t'imagine, j'ai du courage dans mon jean, j'ai le culot, j'ai les nerfs. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Quand je pense soirée coquine, oui, c'est toi que j'imagine. En otage, je suis à elle. Elle a la voix qui ensorcelle et les yeux qui démantèlent à chaque regard posé sur elle. En otage, je suis à elle. Elle a mon cœur sur une ficelle. Elle le sait, elle le ratelle. Un petit coup de manivelle. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Je t'imagine, j'ai du courage dans mon jean, j'ai le culot, j'ai les nerfs. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Quand je pense soirée coquine, oui, c'est toi que j'imagine. En otage, je suis à elle.
Je suis à
sur le trajet habituel. C'est le destin qui nous appelle. Ou des réglages émotionnels. Oui, en otage, je suis à elle.
Je suis à elle.
Accrochage accidentel. Abordage providentiel. L'alchimie est sensuelle. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Je t'imagine, j'ai du courage dans mon jean, j'ai le culot, j'ai les nerfs. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Quand je pense soirée, copine, oui, c'est toi que j'imagine.
Dans mes bras, elle se sent belle. Le châtiment s'offre en dentelle. Dans nos duels trop fusionnels, elle me rend fou, j'en suis rebelle.
Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Je t'imagine, j'ai du courage dans mon jean, j'ai le culot, j'ai les nerfs. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Quand je pense soirée, copine, oui, c'est toi que j'imagine. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Je t'imagine, j'ai du courage dans mon jean, j'ai le culot, j'ai les nerfs. Je t'imagine, dans mon esprit du air, y'a de la magie dans l'air. Quand je pense soirée, copine, oui, c'est toi que j'imagine.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers, l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous, jeudi 11h.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
CIBL.
Vous écoutiez Yao avec Imaginaire juste avant la pub, et puis c'est le retour de notre côté de la chronique Grande Femme de Montréal avec notre nouvelle chroniqueuse Elisa Fernandez. Bonjour,
bonjour
Elisa. Merci de reprendre cette chronique si chère à l'émission.
Avec grand plaisir.
Pour ta première chronique, justement, tu vas nous parler de l'autrice Marie-Claire Blais. Je te laisse nous présenter qui est-elle.
Exactement. Pour tout vous dire, en fait, je suis arrivée à Montréal il y a quelques mois, et Marie-Claire Blais, il y a 2 semaines de ça à peu près, je ne la connaissais pas. C'est en faisant des recherches sur l'actualité culturelle de Montréal, il y a à peu près 10 jours, que j'ai fini par tomber sur un article qui me recommande d'aller voir une pièce de théâtre à l'Espace Go, qui est située boulevard Saint-Laurent. Cette pièce, elle s'appelle « Un cœur habité de 1000 voix » et on peut aller la voir jusqu'au 28 avril. Alors je regarde le résumé, ça m'interpelle, j'achète ma place et presque l'instant d'après, me voilà assise dans la salle des spectacles de l'Espace Go. Et là, pendant près d'une heure et demie, j'y découvre René, 93 ans. Le vieil homme repose sur son lit de mort et peu à peu, il sent la vie le quitter, ses sens se troubler. Et il entreprend de se remémorer son passé. Il était pianiste dans les cabarets, c'était un grand séducteur et un militant pour les droits des personnes LGBT. Et alors qu'il est lui-même transsexuel, l'infirmière qui veille sur lui ne fait que le mégenrer en l'appelant madame ou en lui parlant de sa poitrine. Qu'importe, René va s'extraire de cette atmosphère un peu mortifère et il va convoquer les souvenirs de sa jeunesse. Il va se rappeler chacune des filles de la bande, ce sont des femmes aux côtés desquelles il a lutté pour ses droits. Et une à une, elles vont apparaître sur scène au gré de ses souvenirs, tantôt flamboyantes, mélancoliques ou drôles.
Très bien, on écoute un premier extrait sonore.
Moi, René, je sais que je suis un homme et que je suis né dans un corps qui refuse de m'accompagner dans cette vérité. J'appartiens à un corps menteur ou qui tous les jours de ma vie a menti sur ce qu'il est. Je n'avais pas cessé en m'endormant d'ouvrir le livre du passé, de les revoir toutes. Gérard, Polydore, Doudouline, que sont-elles devenues ?
Bon, c'est vrai que cet extrait nous plonge dans une atmosphère assez sombre, mais je vous assure que la pièce est portée par un texte très fort, un acteur et des actrices lumineux et lumineuses. Et quand les lumières se rallument dans la salle ce jour-là, et qu'il faut que je rentre chez moi, bah, j'ai qu'une envie, c'est de creuser l'histoire de cette pièce qui, je le sens, est empreinte d'une grande charge émotionnelle et symbolique.
Et c'est ce que tu as fait pour cette chronique, et ouais. Qu'est-ce que tu as appris justement à ce sujet-là durant tes recherches ?
Et bah, qu'il s'agit d'une adaptation, celle d'un roman écrit par Marie-Claire Blais, on y vient, une autrice québécoise, et c'est l'écrivain Kevin Lambert qui a décidé d'adapter cet ouvrage en pièce de théâtre, en guise d'hommage à cette grande dame, parce qu'elle nous a quittés il y a un peu moins de 3 ans, le 30 novembre 2021. Marie-Claire Blais, elle a été une autrice très prolifique. Elle a signé aussi bien des romans que des pièces de théâtre, avec la plupart du temps un discours politique assez clair. Les femmes et les minorités doivent accéder aux mêmes droits que ceux que l'on accorde aux hommes. Bon, pour être totalement transparente, je vous l'ai dit, tout ça, ça s'est passé la semaine dernière. Donc, j'ai pas eu le temps de parcourir toute la bibliographie de Marie-Claire Blais. Mais en tout cas, j'ai eu le temps d'en apprendre pas mal sur son parcours, un parcours très inspirant. Et j'ai décidé de lui consacrer cette chronique aujourd'hui.
Eh ben, on t'en remercie parce que le sujet est alléchant. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient, Marie-Claire Blais ?
Ouais, elle est née en 1939 à Québec, dans une famille de 5 enfants. Et rapidement, elle va se découvrir une passion pour l'écriture. Mais bon, je viens de vous le dire, 4 frères et sœurs, famille nombreuse oblige, ses parents n'ont pas trop les moyens, et donc elle doit travailler assez rapidement. À partir de l'âge de 15 ans, elle va commencer à bosser dans des magasins ou dans des usines. Pourtant, sa passion pour l'écriture, elle ne va pas disparaître. Donc elle va finalement décider de suivre des cours du soir en création littéraire à l'université de Laval. Et là, bah, elle va faire des rencontres assez importantes, notamment le vice-président du Conseil des arts du Canada de l'époque, qui s'appelait Georges-Henri Lévesque. Et ce Georges-Henri Lévesque, il va déceler de vraies qualités d'écriture chez Marie-Claire Blais. Il va décider de la soutenir et il va même aller jusqu'à l'aider à publier son premier roman en 1959. Cette première œuvre, elle s'appelle « La belle bête ». Et elle va pas mal remuer les lecteurs par son sujet, puisque l'autrice y raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont des relations assez ambiguës. Donc certains critiques vont dénoncer l'immoralité du roman, alors que d'autres, au contraire, vont déclarer que Marie-Claire Blais, qui, je le rappelle, à l'époque n'a que 20 ans, c'est potentiellement un génie.
Donc c'est un roman qu'on appelle un roman diviseur. Est-ce qu'elle a mis du temps à republier quelque chose ensuite malgré cette critique-là ?
Pas du tout. Son deuxième roman, Tête blanche, il est sorti l'année d'après et elle va conserver un rythme assez soutenu de publication à peu près toute sa vie en fait. Tous les 2 ou 3 ans maximum, elle sort un nouvel ouvrage. Et parmi les plus connus, on peut citer par exemple « Une saison dans la vie d'Emmanuel », « Manuscrit de Pauline Archange »,« Les nuits de l'Underground » ou encore son cycle de romans intitulé « Soif ». Mais le point commun de toutes ces œuvres, ce sont les personnages. Des personnages très forts qui les composent à chaque fois. D'ailleurs, certains apparaissent dans plusieurs œuvres différentes. Donc on sent à quel point Marie-Claire Blais, elle les aime et elle avance aussi à leur rythme. Elle-même en parlait beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse écouter cet extrait d'une interview qu'elle a donnée à Radio-Canada en 2018.
C'est merveilleux de pouvoir parler de tous ces êtres-là, parce que je les entends comme si c'était une musique. Là. J'entends leur voix, je vois leur visage, je les vois, je les sens venir. Mais aussi c'est lié au réel, à des portraits réels. Mais en même temps, comme ce sont des voix intérieures qui tout à coup deviennent entendues, qu'on entend. Comme, et à travers ces voix-là, même quand c'est dans la grande détresse, il y a toujours un chant derrière, un chant joyeux quand même.
Je vous le disais un petit peu plus tôt, elle ne va pas s'en tenir au genre romanesque. Elle va aussi écrire des pièces de théâtre, de la poésie, quelques essais. Donc c'est vraiment une autrice complète, on peut dire ça. Et parmi les textes, les thèmes qui traversent son œuvre, on retrouve souvent une certaine violence, une certaine colère aussi. Ce qui transparaît fortement, c'est son engagement pour les droits des personnes LGBTQ+. Elle s'attache d'ailleurs beaucoup à les représenter dans ses ouvrages, et tout ça dans le but de leur donner une voix. Aujourd'hui, ces minorités ont encore beaucoup de mal à se faire entendre. Alors imaginez dans les années 60, 70, 80, à cette époque-là, il n'était même pas question pour le grand public de faire une place à ces personnes-là sur le devant de la scène. Elles ont souvent, la plupart du temps même, été invisibilisées, alors même qu'elles étaient au cœur de luttes fondatrices en termes de droits et de représentation. Et justement, c'est là que se situe le combat de Marie-Claire Blais, c'est participer à cette lutte par ses écrits.
Je pense que les femmes sont très résistantes, elles sont très fortes en ce moment et il faut qu'elles le demeurent. Mais aussi, en ce moment, c'est une période, dans ces livres-là en tout cas, on tente de retrouver la solidarité humaine, on tente de se retrouver en quelque sorte pour survivre.
C'est un extrait de la même interview sur Radio-Canada en 2018.
Alors on comprend pourquoi cette pièce de théâtre t'a émue avec toutes ces informations. Elle est adaptée donc du dernier roman de Marie-Claire Blais avant sa mort, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. C'est son dernier roman achevé. Et je le rappelle, il parle d'un homme qui, sur son lit de mort, s'interroge sur les effets de son militantisme sur le présent et sur la transmission de cet héritage entre les générations. Comme René, Marie-Claire Blais s'est toute sa vie engagée pour les droits des femmes, des homosexuels et des personnes trans. Et comme René, elle laisse dans son sillage les fruits d'une lutte et d'une existence très inspirante. C'est en étant témoin d'événements inquiétants pour les droits des minorités aux États-Unis que Marie-Claire Blais a rédigé ce roman en 2021, sans savoir qui serait son dernier. Et c'est à nous, lecteurs, lectrices, citoyens et citoyennes, que parle l'autrice à la fin de son livre. Elle nous rappelle que nos droits, qui semblent parfois assez ancrés dans notre quotidien, ne sont pour autant jamais réellement acquis et qu'il faut continuellement lutter pour qu'ils demeurent intacts et que le combat, donc, se poursuit. C'est un très beau testament politique et littéraire qui, je le rappelle, a été adapté au théâtre par Kevin Lambert. Ce sont Stéphanie Jasmin et Denis Marlot qui l'ont mis en scène d'une manière aussi étonnante qu'émouvante. Je vous laisse aller voir cette pièce qui est jouée à l'Espace Go, boulevard Saint-Laurent, jusqu'au 28 avril. Ça vous laisse encore quelques jours, donc foncez.
Merci beaucoup, Elisa, pour ces informations, cette présentation et puis cette recommandation culturelle. C'est tout ce qu'on demande. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine chronique des Grandes Femmes de Montréal. Et puis, bonne recherche d'ici là.
Merci, avec plaisir.
On continue sur CIBL avec la chronique des enjeux d'adolescence de Flavie Boudreau.
Le cœur est immobile. marche-moi dessus et je renverserai le monde à l'envers pour que tu tombes.
C'était « Je renverserai le monde » de Sophie et ses Dalton. Et puis, on est de retour de notre côté sur CIBL avec notre chroniqueuse Flavie Boudreau pour parler des enjeux d'adolescence. Bonjour Flavie.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu souhaites nous parler de la vision de la famille que vous avez chez les adolescents. Pourquoi ce thème-là?
Oui, je vais parler de ça parce que, veux pas, c'est quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose qui est déjà présent et c'est quelque chose que tout le monde vit à tous les jours. Et je trouve que, personnellement, je vois que ça change, je vois que cette vision, elle change de temps en temps, d'une personne à l'autre. Donc oui, je voulais discuter de cet enjeu-là avec vous aujourd'hui.
Eh bien, très bien, j'ai hâte. Et pour commencer, en quoi tu considères que la vision qu'ont les jeunes de la famille, du modèle familial, est différente ou pas des générations précédentes?
Je crois qu'on veut se défaire de cette image classique, cette image... qui est le modèle, entre guillemets, qui a toujours été le modèle, mais qu'on ne veut plus adhérer à ce modèle. Quand je dis modèle, c'est, par exemple, mariage, enfant, tout ça avant 30 ans. On veut changer de chemin, on veut diversifier. Évidemment, cette image, elle est encore présente, mais il y a une certaine partie d'entre nous qui veulent se défaire, qui veulent... ne plus avoir ça dans notre génération.
Mmh. Et qu'est-ce que tu appelles modèle classique? De quoi vous voulez vous défaire?
Ben justement, de ce modèle que c'est une famille mariée pour le reste de notre vie. On rencontre la personne dans la vingtaine, on fait des enfants et après, on ne change plus, on ne veut plus aller voir ailleurs. Mmh. Je ne sais pas que... Là, je ne prends pas l'infidélité, évidemment.
On a compris.
Mais je pense que ce n'est pas nécessairement... la formule qui marche pour tout le monde. Mmh. Et je pense qu'il n'y a pas une formule gagnante. Chacun doit trouver la bonne pour nous, la bonne pour chacun de soi. Et je trouve que dans les générations précédentes, il y avait surtout, comme je dis, cette formule de enfant mariage avant 30 ans, qui était c'est ça qu'on veut et seulement ça. Et on ne veut pas voir ailleurs, on ne veut pas rien d'autre. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut aller voir ailleurs, on peut... diversifié. Mmh.
Et alors, quel œil vous portez sur le fait d'avoir des enfants?
Alors, je trouve que cette question, elle est très large parce que aujourd'hui, il y en a plusieurs qui veulent des enfants, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas nécessairement des enfants. Et surtout, c'est encore relié à ce que je disais avant 30 ans,
on ne veut plus nécessairement se concentrer à avoir des enfants quand on rencontre la personne. On prend un peu plus notre temps. Il y a notamment un article dans les derniers jours de la presse qui a été publié qui démontre que en 1976, les hommes et les femmes avaient des enfants vers plutôt 30 et 27 ans, 30 ans pour les hommes, 27 ans pour les femmes, alors qu'en 2022, chez les hommes, c'était 33 ans et chez les femmes, c'était 31 ans. Donc, cet écart de 3 et 4 ans, il est très démontré et ça montre qu'on prend plus de temps. On prend plus à apprendre la personne, à apprendre quelqu'un, à vouloir plus... s'approprier en tant que personne, en tant qu'individu, avant de plutôt se... aller vite vers les enfants, vers la famille. On veut plus apprendre à se connaître soi-même et apprendre à connaître notre couple.
Et alors, quelles sont les valeurs prônées dans un parcours familial, selon toi?
Je pense que c'est vraiment quelque chose relié au bien-être, au bonheur. Avant, je pense que c'est autant bénéfique pour le couple que si on relie à l'enfant, parce que ça, on veut pas un environnement malsain. Ça, pour moi, ça ne sert à rien de rester avec une personne pour 50, 60 ans si cet environnement-là est malsain, si on n'est plus heureux. Donc, je pense que notre génération prône vraiment plutôt le bonheur que la durée. Et je pense que ça peut être relié vers la santé mentale qui est énormément développée dans les dernières années et qu'on prône beaucoup plus qu'avant.
Une autre chose qui a évolué, c'est le taux de séparation, de divorce. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que les couples se séparent?
Je pense que c'est une... Je dirais pas que c'est une bonne chose, mais encore en lien avec le bien-être, si un couple ne va plus bien, pour moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait être le modèle. Être le modèle de rester ensemble si ce couple-là est malsain, si on ne veut plus rester avec cette personne-là. Donc, si c'est bien fait, si la séparation, le divorce se fait de la bonne manière, alors oui, ça peut être une bonne chose parce qu'encore une fois, je ne prône pas l'environnement malsain.
Et cette norme de rester avec son partenaire même si ça va mal parce qu'on est marié depuis 20, 30 ans, tu penses qu'elle existe encore beaucoup chez les couples?
Je pense que oui. Ouais. Je pense que je le remarque dans mon entourage, dans la culture. Je pense que oui.
Alors après, le divorce, il y a les familles recomposées. Quel œil tu portes là-dessus?
Je pense que ça peut être relié au chemin qui change, au chemin qui évolue. Encore une fois, il n'y a pas de bonne formule. Et je pense qu'on peut apporter un côté... aux enfants qui peuvent se voir à travers les autres. Souvent, par exemple, pour un enfant unique qui vit la séparation de ses parents, ça peut être difficile. Donc, d'avoir cette famille recomposée, ça peut avoir des gens avec qui partager, se soutenir entre eux. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Ça peut être très bénéfique. Et moi, personnellement, je l'ai vu dans mon entourage et j'ai vu que ça fait... beaucoup de bien.
Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs à cette vision?
Bien sûr, évidemment, il y en a partout. Je pense qu'on peut le relier au couple sans enfants qui, malheureusement, est vu moins comme une famille. Ah, tu n'as pas d'enfants, donc tu n'es pas une famille. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas, encore une fois, chacun choisit son chemin. Chacun fait... sa manière à lui, sa manière qui le rend heureux. Et si ça veut dire ne pas avoir d'enfant, ben, grand bien t'en fasse et vas-y. Et je ne pense pas qu'on devrait juger les gens sur ce point-là. Je pense aussi que la séparation peut être mal vue. Un couple qui se sépare, c'est un couple qui échoue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr que non, c'est encore relié, encore une fois, au bien-être, d'être bien avec soi-même et que si ce couple ne te rend plus heureux, si tu n'es plus dans un environnement qui est sain, alors n'y reste pas, prends soin de ta santé mentale.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette réflexion, Flavie. On suivra l'évolution de la situation, comme on dit. Et puis, on se retrouve dans un mois pour un autre thème lié aux enjeux d'adolescence. Merci beaucoup.
Merci.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et les programmes de demain. Vous écoutiez Attrape-rêve de Polo et Pan. Et avant de se quitter, j'ai le plaisir d'être avec Philippe Papineau qui anime l'émission qui s'en vient, Les Francophiles, deux heures de playlist musicale. Bonjour.
Salut,
Philippe.
On pourrait dire Le Francophile. C'est devenu avec les années un peu. Non, mais c'est Francophile. C'est un habile jeu de mots, tu sais, parce que moi, je m'appelle Philippe. Et c'est une émission toute francophone sur les ondes de CBL. Puis c'est drôle parce qu'il y a un temps où j'ai fait cette émission-là il y a longtemps, puis je suis revenu dans cette saison pour, mm-hmm. pour revenir sévir. On paraît que les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime.
En effet.
C'est mon cas, peut-être plusieurs années plus tard quand même. Puis c'était devenu un peu mon brand en bon français, ma marque de commerce. Ouais. Il y avait certains musiciens, je me souviens d'une entrevue avec Dumas qui était au téléphone et qui disait hey, « Salut Francophile ». J'étais resté un petit peu bête, mais c'était la première fois où ça se matérialisait, une espèce d'effet réel.
C'est un beau prénom.
Oui, un effet concret de ce que peut faire une émission sur les ondes de CIBL dans la scène musicale. Donc ouais. c'est très important.
Et en effet. Et quelle va être la playlist du jour?
Aujourd'hui, on est beaucoup dans une thématique sur les lieux. Mm-hmm. À chaque émission, j'interpelle mes fidèles auditeurs sur la page Facebook de Francophile ouais. et des fois même sur mon réseau à moi, même si, bon, ils devraient me répondre sur ma page Facebook de l'émission,
le
message est passé. Mais donc, on va explorer ces lieux. Il y a beaucoup dans les chansons, des endroits clés, des endroits forts, des mm-hmm. endroits importants, parce que nos vies, nos émotions se transposent dans nos vies. À partir de ces endroits-là, souvent, il se passe quelque chose. Tu te souviens de l'endroit, la fois où tu as eu un premier baiser, où tu as eu une rupture, tu te souviens d'une adresse où tu as vécu longtemps, d'un numéro de téléphone. C'est pas un lieu, mais quand même, c'est un lieu quelque part dans nos poches. Maintenant, dans nos poches, jadis, dans nos maisons. Alors, donc, on a interpellé les gens sur leur chanson préférée qui touchait les lieux. Bon, presque tout le monde m'a suggéré des chansons de Beau Dommage, ce que je ne ferai probablement pas jouer. C'est pas tout à fait dans l'ADN de l'émission. Okay. Mais c'est vrai que la formation Beau Dommage a fait, je pense qu'il y a comme une 15 ou 20 chansons qui parlent de lieux précis. Montréal, beaucoup.
Ouais.
C'est un groupe qui était beaucoup ancré dans Rosemont, dans Montréal. Mais donc, on va essayer d'explorer un peu plus loin. On ira jusqu'à Malartic. Je ne vous dis pas
c'est
avec
pas
qui.
Mal. Ouais.
On ira jusqu'à Saint-Bruno aussi. C'est peut-être plus proche, moins exotique, mais ouais. quand même. Il y aura plein de suggestions sur la ville de Québec. Donc, on va explorer un peu ce monde-là. À travers ça, bien sûr, il y aura des nouveautés. Et on va vous parler des Francophonies de Montréal, un petit peu, qui ont dévoilé leur programmation mm-hmm. hier. Oui, hier soir. Puis, donc, on va
faire un petit tour du Québec à travers ton
tout
émission,
finalement. Tout à fait, finalement. C'est pas rien.
Ouais. Est-ce que les suggestions Facebook marchent bien? T'as des retours?
Oui, ben, les thèmes, je dirais que selon le thème, parce que des fois, je suis exigeant envers mes auditeurs, je sais qu'ils sont brillants, je sais qu'ils sont érudits, alors j'essaie de leur en demander plus. Des fois, il y a des trucs un peu plus précis, ça marche moins, mais il y a toujours des fidèles qui sont bons. Mais là, par exemple, aujourd'hui, je sens que ça mord, là.
Ouais.
Je sens qu'on pourrait faire deux heures complètes ben, ouais. juste avec les suggestions.
Parce que c'est de l'émotion que tu proposes.
Ben voilà. Je suis allé sur des cordes sensibles, je suis un peu agace dans ce cas-là. Donc oui, les suggestions, ça marche. Et ce que j'aime bien, c'est que ça crée une communauté autour de la station. C'est une station communautaire, c'est une station où les auditeurs font un peu partie de la station. Donc je trouve que ce genre de démarche-là, aussi banale soit-elle, aussi évidente soit-elle, c'est-à-dire interpeller les auditeurs pour des demandes spéciales, il n'y a rien d'innovateur là-dedans, mais ça crée un lien entre nous. Puis j'aime
ça. Eh
bien,
on a hâte de t'écouter. Merci, Phil, des Francophiles. Merci, Francophiles, tout court.
Ça fait plaisir.
C'était Charline Carreau sur vos CIBL. Je remercie mes invités, mes chroniqueurs et Maurice Bolduc à la mise en onde. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine émission.
C'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Et oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familiale. Je vous invite à écouter mon émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Le Cowboy urbain.
Chante à cheval de ma corde.
Tous les jeudis de 16 à 18h.
Les heures de pointe
tu trouves ça normal?
Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country.
Dans les cônes oranges toute la semaine.
Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
La lune est belle ce soir.
Tous les jeudis de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
Tu aimes partager tes passions? Tu as une idée d'émission et tu veux faire de la radio? C'est le moment de te lancer et d'embarquer dans l'aventure radiophonique. CIBL 101.5 est à la recherche de nouvelles émissions pour sa saison estivale. N'hésite surtout pas à nous soumettre ton projet d'émission radio. Rendez-vous sur notre site web cibl1015.com pour tous les détails.
CIBL 101.5 Montréal.
Montréal. La radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Il est 10 heures, vous écoutez Francophile.